Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa roho yangu
pour des raisons encore liées à notre demi-confinement. Aujourd'hui, nous sommes sans Odile, donc juste Françoise et Dominique. Aujourd'hui, mercredi 28 octobre, nous sommes donc toutes les deux, mais avec la surprise annoncée il y a deux ou trois émissions. Après le liseur de Bernard Schlink, que vous avez présenté Odile, nous vous proposons aujourd'hui la lectrice de Raymond Jean, donc d'autres aventures autour de la lecture. Mais après le récit dramatique de Bernard Schlink, les histoires plutôt pseudo-comiques ou mélodramatiques de Raymond Jean. Et avant de commencer, l'actualité culturelle de Marseille. En cette semaine de vacances, le MUCEM s'est mis au Happy Hours. Donc les visites sont gratuites au musée, l'accès est gratuit tous les jours de 16h à 18h. Et accès gratuit encore dimanche 1er novembre toute la journée. Profitez-en. Ne manquez pas non plus les spectacles de nos théâtres et de nos cinémas marseillais qui ont mis leur pendule à l'heure du couvre-feu. Les spectacles sont maintenus et commence plus tôt, donc vers 18 ou 19 heures. Au cinéma en particulier, allez voir si vous avez l'occasion City Hall de Wiseman. C'est un documentaire de 4h30, mais 4h30 de leçons de démocratie et 4h30 d'anti-Trump. Alors, la lectrice de Raymond Jean. C'est paru en 1986 aux éditions Actes Sud. Et ça a été adapté au cinéma avec Miu Miu dans le rôle de la lectrice. Mais à la fois le livre et le film sont anciens, mais ne datent pas du tout, puisque ça, c'est totalement éternel. Au début du livre et de l'histoire de la lectrice, eh ben, il y a une boutade, un dialogue à bâton rompu entre deux jeunes femmes. L'une dit à l'autre qu'elle a une belle voix et qu'elle devrait en faire quelque chose. Par exemple, lire des textes à domicile à des personnes seules, handicapées, etc. Et le pari est tenu. Donc, le roman est écrit à la première personne. C'est la lectrice qui raconte.
Je me présente, Marie-Constance G., 34 ans, un mari, pas d'enfant, pas de profession. Mon amie Françoise, rencontrée la semaine dernière, m'a dit « Tu as une merveilleuse voix, c'est idiot de n'en rien faire. » Et plus idiot encore de rester inactive. Une femme doit absolument avoir une occupation à notre époque. Quand nous étions ensemble au conservatoire, tu montrais réellement beaucoup de talent. Pourquoi ne mets-tu pas une annonce dans les journaux pour proposer d'aller faire la lecture à domicile chez les uns ou les autres ? Se faire lectrice à domicile, à l'heure des livres cassettes, comme au temps des duchesses, des tsarines et des dames de compagnie ? Mais non, a dit Françoise, pas du tout. Ce peut être très différent aujourd'hui, tout à fait pratique et concret. Des malades, des handicapés, des vieux, des retraités, des célibataires. Perspective réjouissante en effet. Mais j'avoue que des célibataires, c'est drôle. L'idée a cheminé en moi. Me voici devant le type de l'agence qui prend les textes des annonces. Il mâchouille un mégot éteint sous une moustache balai brosse, l'œil braqué sur moi. Il hoche la tête, pousse un soupir, relit mon petit papier qu'il tortille d'un air accablé. « Jeune femme, propose lecture à domicile, texte littéraire, texte documentaire, texte divers. » Suis mon numéro de téléphone. Il tend le papier à la dactylo, sans la regarder, d'un air vaguement dégoûté, et lui demande de taper le texte en 3 exemplaires pour les 3 journaux locaux. Puis il s'empare d'une calculette, établit ma facture. Je fais un chèque, je me lève, je sors. Je sens son regard traîner sur mes mollets et sur mes talons.
Voilà, donc le pas est franchi, mais pas encore très à l'aise avec l'idée de lecture en privé. Marie-Constance se rend chez un ami professeur, en fait un ancien professeur à elle, pour des conseils. Et à partir de là, tout va pouvoir commencer.
Me voici maintenant devant celui que j'appelle mon vieux maître. Il n'est pas vieux, à peine sexagénaire. Col roulé, veston de tweed, la pipe, un air de bon chien à l'œil vif. Très décontracté, le cher Roland Saura, me voit toujours, semble-t-il, arriver avec plaisir. Il a été mon professeur à la faculté des lettres, il y a 15 ans, et j'ai gardé avec lui une relation d'amitié et de confiance. Il s'était fait une règle de ne jamais coucher avec ses étudiantes, aussi n'ai-je jamais été sa maîtresse. Mais ça aurait pu être. Le courant passait. Je viens de temps en temps bavarder avec lui dans son bureau et lui demander conseil sur ceci ou cela. S'il y a trop d'étudiants qui font la queue devant sa porte, il sort avec moi, m'emmène dans sa voiture et nous allons prendre un café quelque part au bistrot du coin. S'il est libre, je m'assois en face de lui dans le bureau. C'est le cas aujourd'hui. Compliment d'usage, il me dit 3 mots gentils sur mon teint, ma mine. Je note à haute voix que ses cheveux s'argentent sérieusement et que cela lui va bien. Puis je lui expose mon idée. Je sens qu'elle l'étonne, mais qu'il ne veut pas le montrer. « Tout est possible, dit-il, pourquoi pas la lecture à domicile ? Puisque tu as commis l'erreur impardonnable de ne pas finir les études dont tu étais capable, que tu es sans perspective ni situation, tout ce qui peut te sortir de ce désœuvrement est bon. Mais par voie d'annonce, franchement ?» Je lui demande « Et pourquoi pas par voie d'annonce ?» Il bourre sa pipe, tasse le tabac anglais, grommelle. « En effet, pourquoi pas ? Mais il ne me cache pas son scepticisme. » Il doute que cela donne un résultat, que j'ai des réponses. Je lui dis qu'on verra bien, mais que j'aimerais avoir de lui quelques avis sur le genre de texte que je pourrais choisir pour mes auditeurs éventuels, s'il s'en présente. Il réfléchit, ou feint de réfléchir, tire sur sa pipe, envoie des ronds de fumée en l'air. Il faut surtout, dit-il, ne pas proposer des textes rasoirs. Pas de grandes œuvres, pas de Proust, pas de robes grillées, pas de poésie non plus, des choses faciles qui passent bien. Les petits naturalistes, par exemple. C'est précis, il y a des histoires, des événements, des faits. Il y a toujours eu la marotte des petits naturalistes. Il a toujours eu la marotte des petits naturalistes. Je crois qu'il leur a consacré sa thèse autrefois. Et je me souviens de très beaux cours, un peu théâtraux mais bien ordonnés, qu'il faisait sur eux. Je le lui rappelle et il sourit, rêve un instant, dans la brume de sa fumée et de son souvenir. Puis il se lève tout d'un coup et se dirige vers la bibliothèque placée à droite de son bureau en disant « Pourquoi les petits naturalistes? Pourquoi pas les grands? Pourquoi pas Maupassant? Il n'y a rien de mieux que Maupassant, crois-moi, Marie-Constance. Pour tous les âges, tous les goûts, toutes les conditions, tous les pays, pour ton projet, c'est ce qu'il y a de mieux. Ne va surtout pas t'embarquer dans des choses ambitieuses ou prétentieuses. Il a pris sur les rayons un beau Maupassant, une vieille édition à reliure brune. Il tourne les pages, il cherche. Il faut choisir, dit-il, des nouvelles fantastiques. Tu es sûr du succès ? Et le voilà qui se lance dans une curieuse évocation de ses débuts d'enseignant. Il était dans un lycée provincial où on lui avait confié des petites classes qui l'ennuyaient alors qu'il rongeait son frein, impatient de commencer une carrière universitaire. Et pour se désennuyer, il consacrait de longues heures de classe à lire aux élèves des histoires fantastiques. Immense succès. Les gosses avaient peur, mais adorant avoir peur, se délectaient et montraient une attention dont ils étaient incapables pour n'importe quel autre exercice. Une expérience pédagogique comme une autre, je pouvais m'en inspirer. Il interrompt sa lecture, referme le livre, attend ma réaction. Comme elle ne vient pas très vite, il enchaîne lui-même. Tout à fait efficace, des ficelles, bon, des effets simples, un peu gros, mais ça marche. Voilà ce qu'il faut prendre comme texte si tu veux te faire un public. Un bon auteur français, valeur sûre, qui savait manier le suspense et le thrilling comme pas un. Ça accroche à tous les coups. Il doit être déçu de constater que je ne parais pas totalement convaincu. En réalité, je le suis. Mais je me demande à qui je vais avoir l'occasion de lire ces horreurs. J'imagine très mal.
Ces horreurs, c'est vite dit. Alors effectivement, il s'agissait de La main de Maupassant. Et Marie-Constance est quand même convaincue. Et puis, en plus, les réponses arrivent. Elle reçoit des réponses à l'annonce qu'elle avait fait paraître donc, dans les 3 journaux de la ville. Et les différentes lectures que Marie-Clémence va faire aux différentes personnes qui lui ont répondu vont constituer, en fait, le corps du livre. Les différentes lectures et surtout donc les différents auditeurs. Au fil des chapitres, au fil des réponses reçues, il y a un certain nombre de personnages et de situations qui se succèdent. Le premier courrier vient de la mère d'un adolescent paraplégique, Eric. La maman reçoit Marie-Clémence, puis elle lui présente son fils.
En un sens, je suis plutôt rassurée. Je lui dis... « Eric, on va certainement pouvoir s'entendre. Est-ce que je peux te tutoyer ?» Il fait oui de la tête, comme pétrifié, incapable de laisser sortir un son de sa gorge. « Mais oui, dit la mère, vous pouvez. Je prends mon temps, fais quelques pas dans la pièce, reviens vers le fauteuil. » Je demande « Tu aimes la lecture ?» Signe affirmatif de la tête. « Tu aimerais entendre des histoires ?» Même signe. « Pour te distraire ou pour t'instruire ?» La mère intervient promptement. « Oh, pour s'instruire, bien sûr, pour s'instruire !» Alors, tout d'un coup, Eric parle nettement, fermement. « Non, pour me distraire, dit-il. » Bref silence. « As-tu des auteurs préférés ?»« Non, madame, vous choisirez vous-même, dit Eric. Nous vous faisons confiance, dit la mère. »
Voilà, nous vous faisons confiance. Alors, rendez-vous est pris pour le surlendemain. Et le surlendemain, justement, Marie-Constance va arriver chez Eric et chez sa maman, bien sûr, pour faire la lecture.
Le surlendemain, la température a changé. J'arrive chez Eric avec mon livre de lecture. Je m'empresse de lui montrer le livre que j'ai apporté, qui est une édition courante des contes et nouvelles de Maupassant chez Garnier Flammarion, dont la couverture s'orne d'un dessin représentant une paysanne normande avec sa coiffe sur le fond d'un village aux maisons serrées, et je lui annonce que je lui lirai plusieurs de ses histoires, toutes très passionnantes et pleines de surprises, aussi extraordinaires que celles qu'il peut lire dans certains des illustrés ou des recueils de BD que j'aperçois en pile sur un tabouret entre son fauteuil et sa table à médicaments, mais qui ont l'avantage d'être écrites dans un beau français simple et dru. Il paraît convaincu et multiplie les signes d'approbation muets, comme il avait fait lors de ma première visite, sans toutefois quitter des yeux la lisière de ma robe et même mes genoux, pourtant assez peu découverts. Je lui indique ensuite que nous allons commencer par une nouvelle particulièrement étonnante et même fantastique qui s'appelle « La main », dont le titre s'expliquera très vite pour lui et qui, j'en suis sûre, va le tenir en haleine du début à la fin. Il paraît un peu fébrile, mais enthousiaste, impatient. Le visage d'Éric est un peu rouge et c'est maintenant de la manière la plus déterminée qu'il garde les yeux posés sur mes genoux. Il n'en reste pas moins très attentif à ma lecture. Il me semble qu'il est réellement intéressé, qu'il capte avec précision tout ce que dit ma voix, tout ce que ma voix, dont j'espère la musique agréable pour lui, mais moi je suis vraiment incapable d'en percevoir les inflexions en ce moment, lui donne à entendre. Le détail de cette histoire curieuse qui parle maintenant de la carrière de M. Bermudier, installé un jour comme juge en Corse à Ajaccio. Nous arrivons au passage de la main, mais au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tire à l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. J'entends comme un profond soupir suivi d'un coup, tout d'un coup, d'un bref sifflement de poitrine. C'est comme si ces mots, carré de velours rouge, objet noir, avaient déclenché je ne sais quelle oppression. Une angoisse, mais peut-être une angoisse admirative, étonnée. Je regarde Éric, ses yeux croisent un bref instant les miens, comme s'il me priait avec insistance de poursuivre, puis redescendre. Je poursuis donc, la main. La chaîne de fer qu'il arrive au mur, l'inquiétude des voisins, des témoins, puis un jour le drame, la découverte macabre, l'Anglais assassiné. Suspense pour suspense, effectivement, il y en a. Roland Saura avait raison, on ne peut faire mieux, Éric est comme fasciné. Cette fois, c'est un cri, bref mais aigu. Éric a rejeté la tête en arrière et a saisi à deux bras les accoudoirs de son fauteuil. Comme pour s'y cramponner. Ses yeux paraissent avoir jailli de sa tête et un filet de bave sort de ses lèvres. Je pose le livre précipitamment et m'approche de lui, prends son poignet. Rien n'y fait. Tout son corps tremble, des frissons passent dans son dos et le pire est que ses malheureuses jambes paralysées se lancent en avant, comme agitées de convulsions. Je lui passe un mouchoir sur la bouche, sur le front. Mais la porte de la chambre s'est brusquement ouverte et sa mère est entrée. Elle crie « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive ?» Heureusement, le SAMU arrive. Deux infirmiers et un brancardier sont là qui prennent tout de suite Éric en charge, demandent des explications sur son état. La mère les donne. Aussitôt après elle, je crois utile de répéter ma phrase stupide, je lui faisais la lecture. Une histoire un peu impressionnante peut-être. Un des trois hommes me regarde comme si j'étais une démente, une simple d'esprit, au mieux. Je vais à l'hôpital dès le lendemain matin, sûre d'être fraîchement reçue. Mais fort heureusement, les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre.
Drôle d'histoire, mais l'aventure avec Éric va se poursuivre. Et en fait, les lectures aussi vont se poursuivre.
En poussant la porte de la chambre le 27, au bout du grand couloir blanc du premier étage du centre de neurologie infantile, je m'attends au pire. C'est un sourire qui m'accueille, le même sourire que le jour de notre première rencontre. Non seulement il a repris ses couleurs, mais son visage est franchement rose, presque trop irrigué. « C'est la fièvre, me dit sa mère en se levant et en venant vers moi. » Pas loin de 40, il paraît qu'il risque de la garder quelques jours, mais il n'y a plus rien de dangereux à craindre. Ils lui ont fait toutes sortes d'examens. Elle est complètement transformée, elle aussi, ne semble plus avoir la moindre animosité à mon égard. Plus de souvenirs même, pourrait-on croire. C'est curieux, inattendu. Mais bizarrement, je me laisse convaincre. Je retourne à la chambre 27. Je me rassois près du lit. Eric me prend la main avec un empressement qui ne laisse pas de doute. Ses yeux fiévreux regardent les miens. La mère confirme. Il veut absolument que vous reveniez. Tout cela n'a été qu'un malentendu, une erreur. Nous comptons vraiment sur vous. Il aime tellement la lecture.
Voilà, donc c'est la première histoire, l'histoire d'Eric, qui va devenir, disons, un auditeur assidu de Marie-Constance. Marie-Constance va retourner chez lui, lui faire la lecture à nouveau. Et d'autres textes vont être découverts comme cela. Ils vont nouer une relation autour des textes que Marie-Constance, peu à peu, lira et fera découvrir à Eric. Et en même temps, en parallèle, d'autres auditeurs potentiels s'adressent à Marie-Constance.
J'ai entre les mains une lettre. La deuxième lettre qui vient de m'arriver par l'intermédiaire des journaux. J'ose à peine l'ouvrir tant elle a l'air étrange. Bleu comme les murs de ma pièce, vaguement parfumé, dirait-on. Mais peut-être est-ce une illusion de ma part. Le timbre collé à l'envers, une écriture allongée et fourbue. Au dos, on peut lire « La Générale Duménil » ou « Dumézil ». Les lettres sont particulièrement tremblées et chevauchantes. Rue des Rives Vertes, je suis perplexe, inquiète. Les beaux quartiers de la ville. Une générale, je vais devoir réellement jouer la lectrice des anciens âges. Il fallait que ça arrive, mais si vite. Mais que lire à Madame la Générale ? À 80 ans, il vaudra sans doute mieux éviter les histoires fantastiques de Maupassant. Sinon, ce ne sera pas l'hôpital, mais la morgue. Il est préférable que je ne me fasse pas une spécialité de tuer mes clients.
Alors, que lire à la générale ?
L'œuvre de Zola, s'écrit-il ?
Eh oui, en effet, Marie-Constance est retournée voir son professeur. Elle est retournée lui demander conseil. Et à nouveau consulté, il donne justement son avis, l'œuvre de Zola.
Un magnifique livre, tu le connais sûrement, le portrait grandiose et tragique d'un peintre, Cézanne peut-être. Eh bien, dès le début, il est question d'une drôle de gamine qui s'appelle Christine. Le héros la recueille un soir de pluie battante devant son atelier, il l'héberge, la fait parler et elle lui raconte qu'elle vient d'arriver dans sa province à Paris, toute seule, de sa province à Paris, toute seule, toute perdue, toute paniquée, pourquoi ? Pour devenir lectrice chez la veuve d'un général. Voilà le passage. Il a orienté le livre vers le jour, vers la fenêtre qui donne sur les pelouses du campus. Christine, en quelques paroles, conta les choses. C'était la veille au matin qu'elle avait quitté Clermont pour venir à Paris, où elle allait entrer comme lectrice chez la veuve d'un général, Madame Vanzade, une vieille dame très riche qui habitait à Passy. Le train, réglementairement, arrivait à 9h10. Et toutes les précautions étaient prises, une femme de chambre devait l'attendre, on avait même fixé par lettre un signe de reconnaissance, une plume grise à son chapeau noir. Roland Saura paraît très satisfait d'avoir retrouvé ces quelques lignes. « C'est parfaitement conforme, dit-il, tu rentres comme lectrice chez la veuve d'un général. Le mieux est de lui lire ce texte-là, ce livre-là, ce sera parfait. Je me sens très méfiante. » Si Zola allait réserver des surprises encore pires que celles de Maupassant. Ces auteurs qui font dans la réalité sont ceux qui soulèvent le plus de délire. Et ma vieille générale, plutôt que de se voir tendre un miroir ridicule, a peut-être envie de lectures raffinées ou poétiques pour endormir les douleurs de son vieil âge. Je suis d'ailleurs en train d'oublier qu'elle est aussi une comtesse hongroise. Peut-être aimerait-elle des auteurs hongrois. Roland est revenu vers moi, tenant le livre fermé dans sa main gauche. De la droite, il rectifie quelques cheveux au milieu de ma frange. « Tu porteras, dit-il, un chapeau avec une plume noire. »
Voilà, donc Marie-Constance va alterner les visites à Eric et les visites à la générale. Toujours Maupassant pour le jeune homme, mais avec des choses moins fantastiques, moins effrayantes. Et par contre, aussi bien avec lui qu'avec elle, un vrai plaisir de la lecture des deux côtés du texte, donc de celui de l'auditeur, de celui de la lectrice. Et venons-en donc aux lectures avec la générale.
C'est une servante qui m'accueille chez la générale, Duménil. Je ne dis pas une bonne, car elle a vraiment du style et d'assez grands airs dans sa blouse amidonnée. Elle m'introduit dans une chambre où je ne vois qu'un lit. Un lit immense, démesuré, qui semble occuper toute la pièce. La générale est là, dans un amoncellement de coussins et de livres. Il y a aussi un gros chat de race, un peu mauve, enfoui au milieu des couvertures. Elle me fait un signe de la main et me dit « Entrez, entrez, Nouchka, approchez-vous, asseyez-vous. » Pourquoi, Nouchka ? Sans doute une habitude et un signe de cordialité. Mais j'évite de me poser la question. Je ne remarque pour l'instant que son accent, qui est évidemment un accent d'Europe centrale, hongrois probablement, marqué dans la façon dont elle a roulé Nouchka. Elle a l'air très satisfaite de me voir. Elle m'invite à prendre place sur un tabouret assez bas, donne congé à la servante et se met à m'expliquer la situation et ses problèmes. Il est clair que ses 80 ans n'ont pas entamé la vigueur de son caractère et qu'elle est de ces personnes au verbe intempérant dont il faut se résigner à recevoir de plein fouet les flots de confidences. Je me résigne, le dos rond, tout en gardant l'apparence de la plus parfaite politesse, car je sens que ma nouvelle profession aujourd'hui s'installe. La générale, d'un revers de main qui balaye le dessus du lit, me montre tous les livres étalés là et me dit qu'hélas, elle ne peut plus les lire, ses yeux l'abandonnant. Elle se penche pour saisir sous la table de nuit trois paires de lunettes différentes qu'elle jette avec une sorte d'écœurement sur ses couvertures. Aucune des trois ne lui apporte plus le moindre secours. Elle devient aveugle, ce que je vois tout d'un coup à la manière dont une sorte de brouillard occupe ses yeux, pourtant très beau et très clair, à son air surtout de regarder à côté de moi au moment même où elle paraît me dévisager. « Eh oui, dit-elle, la cataracte !» Mais pas la lecture de n'importe quoi. Il faut que je le sache bien, puisqu'elle attend de moi que je supplée à la défaillance de ses yeux. Non, pas n'importe quoi. Ses auteurs favoris, et essentiellement l'un d'entre eux, Marx. Je fais répéter, crainte d'avoir mal entendu à cause de l'accent. C'est bien cela, Marx. Elle dit Marx et accessoirement, là encore, magnifique roulade de l'adverbe, Lénine. Comprenant que je suis la proie du doute, elle soulève ses genoux dans le lit.
Lénine !
Je lui plais. Je suis vraiment celle qui lui convient. Je n'ai pourtant pas ouvert la bouche ou presque pas. Bien entendu, il faut voir si je suis capable de lire Marx correctement. Car, dit-elle, tout le petit cours d'histoire que je vous ai fait, Nouchka, sans Marx, n'aurait aucune espèce de raison d'être, puisque ces événements grandioses qui ont transformé mon pays de fond en comble n'auraient même pas eu un commencement d'existence. Donc, nous allons faire un essai. Elle attrape dans ses couvertures un ouvrage qu'elle paraît reconnaître au seul toucher et me le tend en me disant d'autorité et sans la moindre hésitation, page 125, lisez. C'est l'anti-During, un passage que je ne me lasse pas d'entendre. Je prends le livre, l'ouvre à la page dite, demande si c'est le passage marqué d'une croix. Oui, dit-elle, une croix, et dans la marge il doit y avoir une annotation au crayon. La morale a toujours été une morale de classe. C'est le sujet de ces pages, magnifiquement traitées. Allez-y, commencez. Je commence. Lorsque nous voyons que les trois classes de la société moderne, l'aristocratie féodale, la bourgeoisie et le prolétariat, ont chacune leur propre morale, nous n'en pouvons tirer qu'une conclusion, c'est que consciemment ou inconsciemment, les hommes puisent en dernière instance leurs idées morales dans les conditions matérielles sur lesquelles repose la situation de leur classe, dans les conditions économiques de leur production et de leurs échanges. « Quelle merveille !» dit-elle. « J'aurais préféré que vous me lisiez cela en allemand ou dans la traduction russe de Luna Charsky. » La domestique arrive avec le thé, à l'orange. « Je bois. La semaine dernière, le chocolat. Aujourd'hui, le thé. Ma profession tend à devenir un peu mondaine. » Mais mon salaire tend à se préciser. J'ai ce que j'ai voulu.
Voilà, donc Marie-Constance s'installe dans son rôle de lectrice. Avant de compter d'autres séances de lecture, Elle se décrit physiquement, sans doute pour que le lecteur, nous, puissions l'imaginer. Comment la voit son auditoire et donc comment nous pouvons la voir, nous. Et puis, elle va aussi retourner rencontrer son professeur pour se faire conforter dans son personnage. Alors, sa description physique.
Je suis plutôt grande, mince du haut, un peu large du bas. J'ai des cheveux noirs traversés de reflets roux, arrondis en franges sur le front, attachés en banane sur la nuque. Des yeux verts, un visage aigu, un peu coupant, que l'on disait ingrat quand j'étais petite fille. Mon corps, je voudrais l'indiquer, est régulièrement entretenu par des séances de gymnastique douce auxquelles m'a entraînée Françoise, et je me sens dans l'ensemble en excellente forme, malgré quelques vagues plissements et froissements que j'ai cru éprouver ça et là dès après la trentaine. Je donne à ceux qui me voient une impression de bonne santé, et comme je suis rieuse, mon apparence a quelque chose de rassurant, et même de tonique s'il faut en croire Philippe, mon mari. Certains voient malheureusement dans cet air de gaieté je ne sais quelle insolence. Je ne suis pas du tout insolente. Je suis comme je suis. Une femme sans doute pareille aux autres. Mais une femme, oui. Ai-je les qualités pour faire une bonne lectrice? C'est évidemment un autre problème. Il faudrait peut-être, pour le sérieux, que je mette des lunettes. J'en porte d'ailleurs très souvent de soleil. Mais je crois qu'il faudrait des vraies lunettes, même si elles ne sont que des bouts de verre blanc. Je vais y penser.
Donc voilà, elle commence à se prendre très au sérieux et elle a raison puisque notre lectrice, ben, sa lecture n'est plus seulement une occupation, ça devient un véritable métier. Elle va, comme on le disait, revoir son professeur qui la conforte dans ses choix et il lui dit qu'en effet c'est une bonne idée les lunettes, même si ce sont un peu des lunettes de comédie. Alors, nous sommes à la fin de la première partie. Nous allons écouter un peu de musique, enfin pas vraiment de la musique, mais plutôt une autre histoire, une autre conteuse. On va demander à Juliette Gréco de nous parler de la fourmi.
De 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi, pourquoi pas?
Après cette petite histoire, revenons aux lectures de la lectrice. Donc les lectures à Eric, par exemple, puisque Marie-Constance, en dialoguant avec lui, découvre son amour de la poésie et décide de lui lire Baudelaire, en partant du poème « Les chats ». Un peu scabreux peut-être pour une lectrice. Mais elle passe plus tard, au chapitre suivant, à l'évocation des séances avec la générale. Et la générale se révèle également bien surprenante. C'est à la page 82.
J'ai mis des bottes souples dans lesquelles je me sens à l'aise pour aller chez la générale. Deuxième visite. Je la fais sans enthousiasme excessif, je dois l'avouer. Mes devoirs obligent. La fatale domestique me reçoit avec un air plus guindé encore que la fois précédente et me fait entrer dans un salon où je n'avais pas encore eu l'avantage de pénétrer. « Madame dort, » dit-elle, « il faut attendre un moment. » Je pense que la générale dort beaucoup et souvent. Je suis pourtant là à l'heure exacte. 3 heures de l'après-midi, le jour prévu, le mardi.
Les secondes passent.
Les secondes passent. Je promène les yeux autour de la pièce pour ne pas rencontrer les siens. Les murs sont pleins de souvenirs et de vieux tableaux. Dans un cadre, des décorations, des médailles, un grand cordon avec une sorte d'aigle impérial, des cartes de navigation, des estampes, les pièces d'un musée poussiéreux. Là-bas, toutefois, dans un angle, une petite armoire vitrée un peu plus pimpante, prise dans le faisceau de 2 projecteurs électriques semblables à des spots. Au-dessus de l'armoire, une photo de Lénine sur un socle représentant une gerbe de blé torsadée surmontée d'une étoile rouge. C'est cette photo qu'éclaire les 2 spots, comme feraient des cierges sur un autel. « C'est le coin de madame, » dit la voix lancinante. Puis, après un énorme soupir, « quel gaspillage d'électricité !» À ce moment précis, une sonnette retentit. La générale appelle de sa chambre. Elle me tend le livre, marqué à la page où j'avais dû m'arrêter la dernière fois. Je n'ai pas le choix. Il faut que je continue l'affreux texte. À partir du moment où s'est développée la propriété privée des objets mobiliers, il fallait bien que toutes les sociétés où cette propriété prévalait eussent en commun le commandement moral « tu ne voleras pas ». C'est proprement génial, ne trouvez-vous pas, Nouchka ? Mais je sens que ce texte vous ennuie. Posez le livre et prenez cet autre-là. C'est la critique de l'économie politique. Vous pensez certainement que Marx n'a écrit que des choses assommantes. Il n'y a qu'à voir votre mine et votre manière un peu dégoûtée de lire. Eh bien, détrompez-vous. Vous allez voir ce passage, celui qui est marqué d'un signet de corne. Ce doit être la page 166. Vous allez trouver un texte merveilleux sur les métaux. Oui, les métaux précieux. Un texte de poète. Vous ne croyez pas? Eh bien, lisez. J'ouvre le livre à la page indiquée. Je suis très agacée, crispée même, et cela doit se voir. Je lis pourtant. Le passage est encore marqué d'une croix. L'or et l'argent ne sont pas seulement le caractère négatif des choses superflues, c'est-à-dire dont on peut se passer. Leur qualité esthétique en font les matériaux naturels du luxe, de la parure, de la somptuosité, des besoins des jours de fête, en un mot, la forme positive du superflu et de la richesse. Elle me fait signe d'arrêter et commente. Qu'est-ce que vous dites de ça, Nouchka ? Le luxe, la parure, la somptuosité, les besoins des jours de fête ? Avouez que vous ne vous attendiez pas à cela. Une autre lecture. Elle ferme les yeux, littéralement pâmée, continuant à caresser le chat. Si pâmée, les yeux si clos, que je me demande si elle n'a pas glissé encore une fois dans le sommeil. Le chat aussi, d'ailleurs.
Voilà, donc la générale, en fait, est une générale marxiste et révolutionnaire. Donc, Marie-Constance est surprise, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Après celle de la générale des quartiers chics, une nouvelle lettre est arrivée, une nouvelle lettre surprenante, une lettre de PDG.
Madame, j'ai pris connaissance de votre annonce publiée dans la presse locale ces jours derniers. Président directeur général d'une grande entreprise, je mène une existence très occupée. Dans les très rares moments libres que me laisse mon emploi du temps, j'ai pensé que les séances de lecture que vous proposez pourraient m'aider à parfaire une culture générale devenue de plus en plus indispensable aujourd'hui, surtout dans le type d'activité et de responsabilité qui sont les miennes et que je n'ai pas le loisir d'acquérir autrement. En d'autres termes, j'aimerais me tenir au courant, savoir ce qui se lit, ce qui se dit, de quoi on parle. Vos conditions seront les miennes. Si cette offre vous agrée, mademoiselle, veuillez avoir l'amabilité de prendre contact avec moi, etc.
Etc, etc. Alors, ce PDG, que réserve-t-il à Marie-Constance ? Vous savez qu'elle avait décidé de mettre des lunettes. Alors, pour aller voir son PDG,
J'ai mis des lunettes et un tailleur de bonne coupe. Je me suis décidée. Je me rends chez mon PDG. Il s'appelle Michel Dautran. Le monsieur qui m'ouvre est soigné, distingué, jeune encore, plutôt bien.
Ah, alors on est en panne avec le PDG. Voilà, ça y est, on l'a retrouvé.
Je le vois avec son attaché-caisse ou sa serviette bourrée ou son élégante valise sautant de gare en aéroport. Comme tous les autres, agités, pressés, se donnant de l'importance, faisant pleuvoir les notes de frais, sa société, son nickel et pas la plus petite place dans son emploi du temps pour lire un livre. Mais alors, pourquoi y a-t-il une place pour moi? Pour le temps que je devrais consacrer à sa culture? La réponse est très simple, très directe, certainement préparée, méditée. Écoutez, madame, je vais vous faire un aveu. Ce n'est pas seulement une question de temps. Je suis incapable, vous entendez, incapable de lire un livre. Cela doit tenir à ma formation, à mes habitudes de vie, à la trépidation que m'imposent mes activités. Je ne sais pas, mais c'est ainsi. Tandis que si quelqu'un m'apporte sa collaboration, si une voix, la vôtre peut-être, m'aide à accéder à la lecture, vous comprenez ? Je lui dis qu'il y a des cassettes, des enregistrements très bien faits qu'il pourrait écouter en train, en avion, en bateau, et aussi toutes sortes de procédés de lecture rapide mis au point justement pour les hommes d'affaires pressés. Il prend un air penaud, blessé, contrit. Vous ne comprenez pas. J'essaie de vous expliquer que cela devrait être, comment dire, personnalisé. Il change brusquement de ton, se lève comme s'il ne voulait plus rester en face à face avec moi. Bien. Êtes-vous prête, madame, à remplir le service que votre annonce semblait proposer? J'en serai tout à fait heureux. Le problème le plus délicat sera celui du planning, en raison de mon emploi du temps. Mais vos conditions? Je le quitte en lui promettant de réfléchir, de lui faire passer de toute façon ma petite brochure. Il a complètement changé de manière. Il me prend la main d'un air implorant. Qu'est-ce qu'il faut dire? Demande-t-il. Duras? Je lui dis, vous savez, ce n'est peut-être pas suffisant. On parle beaucoup de Claude Simon. Qu'est-ce qu'il faut lire? Demande-t-il. Duras. Je lui dis, vous savez, ce n'est peut-être pas suffisant. On parle beaucoup de Claude Simon pour le Nobel. Et si jamais ça arrive, on en discutera beaucoup dans les dîners. Mais je vous avertis, ce n'est pas facile. Il garde ma main. Je me demande s'il va finir par me la rendre. Revenez, dit-il, revenez vite.
Notre lectrice, notre Marie-Constance, est donc maintenant bien installée dans son nouveau métier. Elle est lectrice, oui, elle est lectrice pour la Générale, elle est lectrice pour Eric, elle est lectrice pour ce PDG un peu entreprenant. Et avec lui, jusqu'où ira-t-elle ? Et puis, d'autres clients se présentent, d'autres lettres de demande arrivent. Et à nouveau, des gens qui, d'une façon ou d'une autre, pensent qu'ils n'ont pas le temps de lire et qui lui demandent de suppléer, en effet, ou pour eux-mêmes, ou comme ça va être le cas avec Clorinde, pour leur petite fille.
Une jeune femme de la bonne société de notre ville m'a écrit et m'a demandé si je pouvais lire de temps en temps des textes poétiques pour sa fille âgée de 8 ans. Je suis devant cette dame. Je l'écoute. Elle est extrêmement belle, élégante et soignée. Ses préoccupations sont les suivantes. Elle travaille. Elle est promotrice dans l'immobilier. Elle ne dispose pas d'une minute et elle est dans l'incapacité absolue de s'occuper de sa fillette. Il faut qu'une personne dévouée le fasse à sa place. Je réponds que je ne suis pas préceptrice, mais lectrice. Qu'elle s'est trompée. Elle me retient par un sourire ravissant. Pas du tout. Elle a très bien lu l'annonce. Elle ne se trompe pas le moins du monde. Que je la laisse seulement venir là où elle veut en venir. Son beau visage de star a un éclat presque pathétique. Coiffure impeccable, magnifique paupières bleues, magnifiques cils ourlés, boucles d'oreilles de turquoise, collier assorti, autorité dans les yeux et dans la voix. Rien n'est plus terrible, dit-elle, que le sort des femmes d'affaires. Les femmes au foyer, qui pleurent toujours sur leurs conditions, ne connaissent pas leur bonheur. vivre selon des rythmes calmes, pouvoir se consacrer à ses enfants. Voilà ce dont nous sommes totalement frustrés. Et c'est pourquoi il y a ce terrible problème que je vous demande de m'aider à résoudre. Clorinde, vous allez le voir, est très mignonne, très attachante. Si vous permettez, je vais aller la chercher. De fait, il est indiscutable que Clorinde est très mignonne. Quand elle apparaît avec sa mère, je suis séduite tout de suite par son petit visage frais sous ses cheveux bouclés, le nez pointu, quelques taches de sang sur les pommettes, l'air intelligent et malicieux. Mais je me demande aussitôt ce que je suis bien capable de faire pour une petite fille comme cela. Je n'avais certes pas prévu de m'adresser à des enfants de 8 ans. Lui lire quoi ? Alice au pays des merveilles ? J'ai dû penser à haute voix. « C'est cela, dit la mère, Alice au pays des merveilles. Exactement cela, elle ne l'a jamais lu. Et je crois que c'est le livre qu'il lui faut, le livre qui la fera rêver et l'éveillera à la poésie. Car je veux qu'elle s'éveille à la poésie. » Les affaires, c'est ma drogue, vous comprenez ? Je m'agite, je voyage, je déjeune à droite et à gauche. Pour elle, autre chose, l'essentiel, la poésie. Vous avez très bien compris et très bien choisi. Clorinde ne dit rien. Elle doit être intimidée, mais par instant, elle lève vers moi ses yeux clairs, comme pour bien voir à qui elle a affaire. Un tout petit sourire se forme sur ses lèvres. Je dois lui plaire, et elle me plaît aussi. Me voici décidément confrontée aux situations les plus imprévisibles. Mais celle-là n'est sûrement pas la plus désagréable, ni la plus difficile à y bien réfléchir. Marché conclu, j'accepte.
La petite Clorinde va donc élargir le cercle des auditeurs et Marie-Constance apprécie vraiment de plus en plus cet aspect un peu pédagogique de ses lectures. Et puis, dans un autre registre, elle poursuit aussi, bien sûr, avec le PDG.
Il a renoncé au veston et à la cravate. Il porte un grand pull mou et paraît très décontracté, beaucoup plus en tout cas que la dernière fois. Il me dit d'emblée qu'il ne dispose que d'une heure et non pas deux comme cela était prévu. Il faut donc que je pratique une lecture intense, c'est l'expression qu'il emploie. C'est sans doute pourquoi il se jette dans un grand fauteuil, croise ses mains sous sa nuque, ferme les yeux et attend. Je suis invitée à prendre un autre fauteuil, mais je choisis le pouf. Je lui explique brièvement que Claude Simon doit permettre une lecture intense car c'est très concentré. Mais j'ajoute qu'il ne doit pas s'attendre à une histoire, des événements, des anecdotes, un beau texte où chaque mot pèse son poids d'écriture. J'ai choisi un passage de « Leçon de choses » qui doit évoquer un tableau, une gravure. Trois femmes au teint sans doute fragile, qu'elles protègent du soleil par des ombrelles, descendent la pente du verger. Elles portent des robes claires, d'un style démodé, très serrées à la taille, aux manches à gigot. L'une d'elles agite autour de son chapeau et de son buste un rameau feuillu pour chasser l'étang. Des feuilles de noyer froissées s'exhalent un parfum entêtant, encore épaissi par la chaleur de l'après-midi. Les temps ont des ailes allongées, grisâtres, piquetées de noir et une tête noire. Je me laisse porter par la lecture. Mais redressant la tête, je constate que M. Dautrand a les yeux fermés, non plus par l'intensité de sa propre concentration, mais bel et bien par le sommeil. Je toussote. Il se réveille. Il soulève ses paupières avec lassitude. Je crois qu'il va marquer un peu d'embarras ou de gêne, dire quelque chose de Claude Simon, mais non. Il se dresse d'un seul coup, saute presque sur moi, me fait abandonner le livre. « Fermez-le, dit-il, posez-le là. » À côté, ne parlons plus de cela, c'est indiscutablement admirable, tout à fait admirable, mais comment voulez-vous ? Vous ne vous rendez pas compte que c'est vous que je veux, pas le livre. En effet, je me rends compte, il est contre moi, il me serre, il me presse, essaie de me prendre dans ses bras, cherche mes lèvres. Il m'entraîne d'une manière assez brutale vers la grande glace du fond et me contraint à me regarder. « Vous êtes fabuleusement attirante, permettez-moi de vous le dire, et je n'ai pas l'intention d'en rester là avec vous, sachez-le. Vous ne trouvez pas que nous allons bien ensemble ?» Il penche la tête sur mon épaule, dans la glace. Il a quelque chose d'attendrissant dans le ridicule. « Regardez, nous pourrions faire un beau couple. Épousez-moi, Ce serait le plus simple puisque je suis libre. Je suis bien obligée de lui répondre, mais moi, hélas, je ne le suis pas. Il a l'air atterré. Il me lâche, se passe la main dans les cheveux, se décoiffe. D'un geste dont je vois bien maintenant qu'il lui est familier. « Vous n'êtes pas libre ?» dit-il. « C'est terrible. Vous êtes marié ?»«
Oui, monsieur. »
« Vous n'êtes pas que lectrice tout de même ?» Je le regarde dans les yeux. « Mais si, lectrice !» Il baisse les bras, au sens propre. « Bon, alors lisez. » Il s'est encore rapproché de moi, m'a fait déposer le livre, mais s'est contenté de prendre ma main. Il la tient, agenouillée à mes pieds sur la moquette. Il pose ses lèvres sur le bout de mes doigts. « Si vous vouliez m'aider, faire quelque chose pour moi !» Je vous revois comme vous étiez l'autre jour. Cette jupe, vos jambes, vous pouvez me sauver, dit-il, sauvez-moi. Je commence à me sentir accessible à la compassion. J'enlève mes lunettes, me penche et lui tend ma bouche.
Ah, alors, lectrice, Marie-Constance n'est plus seulement lectrice. Le PDG est venu son PDG. Alors, il y a son PDG et puis quand même, il y a les autres auditeurs. Clorinthe, par exemple. Donc, que vont devenir toutes ces aventures ?
La première séance avec Clorinthe se passe très bien, si je puis dire, car on va voir la suite. Quand j'arrive, la petite fille m'attend à la maison, toute seule, et me reçoit comme une grande. Elle m'explique que sa mère ne rentrera que le soir, tard, mais que tout est prévu, qu'on va s'installer ici, si je veux bien, s'asseoir là, que tout à l'heure, on prendra le goûter. C'est en fait dans sa petite chambre qu'elle m'amène et par la fenêtre, je constate que le temps est très beau, comme je l'avais constaté dans la rue. Un splendide temps d'hiver, froid mais lumineusement bleu. C'est ce beau temps-là qui va me jouer un tour. À peine en effet ai-je commencé la lecture d'Alice que Clorinde se met à donner de curieux signes d'agitation espiègle. Par exemple, je termine le passage suivant. Alice, elle happa au passage un pot d'une tablette. Il portait les mots « confiture d'orange », mais elle fut bien désappointée de le trouver vide. Elle se lève aussitôt, se précipite à la cuisine, je l'entends remuer, déplacer les objets, sans doute un escabeau, ouvrir un placard, et elle revient triomphante, un pot de confiture d'orange à la main. Je lui dis de ranger cela bien vite et de revenir écouter l'histoire. C'est alors que nous arrivons au passage de la clé d'or. Tout à coup, elle rencontra un petit guéridon tout de verre massif et rien dessus qu'une mignonne petite clé d'or. Inutile de poursuivre. À ces mots, Clorinde se lève pour la troisième fois et va chercher sur la porte d'entrée la clé de la maison. Elle me la porte, me la montre et c'est ici qu'intervient le malencontreux beau temps. « Si nous sortions, me dit-elle, il fait si beau !» « Je ne sors jamais, maman rentrera tard. » Elle est si adorable tout d'un coup avec ses joues roses et ses yeux de poupée mécanique que je ne résiste pas, je dis oui, inconsciente, irresponsable.
Alors, elles vont se promener.
Et puis tout d'un coup, la fête. Elle veut monter sur tous les manèges, sur un cheval rutilant, sur une motocyclette chromée, dans un vaisseau spatial hérissé d'antennes, dans une fusée multicolore. Je commence à m'inquiéter sérieusement, mais je me rassure en me disant que cet enfant doit être ordinairement privé de ce qui fait la joie des autres enfants pour se déchaîner ainsi et que sa mère promotrice ferait bien de lui donner un peu plus de temps et de complicité. Je ne me doutais pas qu'au moment où je pensais cela, cette dame affairée rentrait chez elle prématurément par un extraordinaire coup de hasard. Trois de ces rendez-vous de l'après-midi avaient été annulés. Fort heureusement, moins d'une heure après ces événements, Clorinde est là, et moi aussi. L'explication est difficile, elle a lieu tout de même. Je plaide coupable, mais je plaide aussi l'étourderie, l'ivresse du beau temps d'hiver, la joie de découvrir une petite fille si vive, son pouvoir quasi magique de séduction, sa gentillesse et son intelligence pétillante. J'en rajoute. Autant que je peux pour essayer de désarmer la mère. Mais elle ne désarme pas. Elle est hors d'elle, elle crie, elle se montre hystérique, elle me traite de tous les noms. Clorinde, comprenant l'étendue de sa faute, pleure aussi, puis crie, se roule par terre. Je ne sais plus comment arrêter le désastre.
Alors en fait, avec Clorinde, c'est aussi le dérapage. Finalement, toutes ces lectures, ce sont vraiment des histoires, ce sont vraiment des aventures. Les choses ne se déroulent jamais comme Marie-Constance l'avait pensé. La lecture, c'est la porte ouverte à bien d'autres aventures. Lectrice, ce n'est pas de tourpeau. Alors, comment cela va-t-il finir ? Marie-Constance, qui n'a pas froid aux yeux, va retourner chez son PDG. Finalement, avec le PDG, elle va reprendre le contrôle. Mais avec le général, la générale, elle le perd totalement, ce contrôle. Elle est surprise par des événements extérieurs, alors que pourtant, elle avait perçu son activité de lectrice comme un métier qui se déroulait bien et plutôt tranquillement. Alors, notre général qui nous donne du fil à retordre, c'est page 155.
C'est tout de même vrai que j'ai un métier maintenant et qu'il commence à s'organiser. Pas une foule de clients, bien sûr, mais si je ne perds pas ceux que j'ai, si je ne les perds pas en effet, cela pourrait tourner. Donc, soignons-les un par un. Cet après-midi, je me rends chez la générale, que je n'ai pas visitée depuis quelques semaines à cause d'une grippe qui l'a secouée, mais qui, paraît-il, est impatiente de me voir revenir. C'est la bonne qui m'a dit cela au téléphone. Enfin, je veux dire, la gouvernante. Le bizarre personnage, vous savez bien. Quand j'arrive, elle me confirme que la générale était impatiente et elle ajoute qu'elle était impatiente elle-même car je leur apporte à toutes deux, elle ne sait quelle lumière, quelle chaleur. Cela vient sans doute de ma présence, mais tout particulièrement de ma voix. J'explique qu'il y a de l'agitation dans les rues. Je ne sais quels embouteillages, que j'ai dû laisser ma voiture assez loin et venir à pied. À ce moment précis, la générale ouvre sa porte, sort de sa chambre, figure hagarde, grandiose et impressionnante, et brandissant un journal, me reproche de ne pas lire la presse, moi qui y publie des annonces. « Vous auriez dû, Nouchka, dit-elle, qu'il y a aujourd'hui... Vous auriez su, Nouchka, dit-elle, qu'il y a aujourd'hui dans notre ville une importante manifestation des employés d'autobus organisée par leur syndicat et que les ouvriers des usines Toms, qui se trouvent, comme vous le savez, à 300 mètres d'ici et où justement on fabrique des autobus, vont probablement s'y joindre dans l'après-midi. Il me reste à souhaiter qu'ils passent sous mes fenêtres. » Je lui dis que ce n'est sûrement pas une grippe, même prolongée, qui viendra à bout d'une constitution aussi robuste que la sienne, et j'exprime mon admiration pour sa vitalité, comme pour sa vigilance politique et syndicale jamais en défaut. Je lève la tête, surprise par un bruit assez tumultueux qui monte de la rue et envahit presque la pièce. La comtesse ne s'était pas trompée. Elle bondit littéralement de son lit, trop heureuse d'imaginer que des manifestants soient en train de se rassembler sous ses fenêtres. Avant même que j'aie eu le temps de dire quoi que ce soit, elle va vers la fenêtre en chemise, tire les rideaux, ouvre largement les persiennes d'une façon si déterminée que j'ai le sentiment qu'elle va commettre inéluctablement un véritable acte de folie ou en tout cas s'exposer en cette saison au péril d'un brutal refroidissement qui à son âge pourrait être mortel. Que faire pour la retenir ? Laissez-moi faire, j'ai tout prévu. Elle a en effet rassemblé sous son lit plusieurs des drapeaux rouges de sa collection. Elle écarte le chat mauve qui dort sur l'un d'eux. Elle les retire un par un, les brandit maintenant à la fenêtre avec les signes de la plus vive excitation. Elle se penche tellement que j'ai peur qu'elle ne tombe et je m'agrippe à sa chemise pour la retenir. Effectivement, le cortège des manifestants est en train de passer dans la rue. On peut voir toutes sortes de banderoles, notamment des banderoles de la CGT. Des hommes et des femmes se tiennent par le bras en scandant des slogans. La comtesse semble tout à fait satisfaite et remue avec fougue ses vieux bras de droite à gauche pour agiter ses drapeaux historiques dont elle secoue littéralement la poussière aux quatre vents. Je ne sais que faire. La foule, dirait-on, gronde. Mais tout d'un coup, au contraire, c'est comme un vaste vivat qui monte d'elle, une houle d'acclamations. Jamais, sans doute, on a vu autant de monde sous ses fenêtres, ni entendu une telle clameur. La générale tourne vers moi un visage radieux et impérieux et me demande d'aller chercher, toujours sous son lit, une cassette où elle a enregistré, dit-elle, l'Internationale.
Voilà, la générale marxiste et révolutionnaire, comme elle avait été présentée à la lectrice, est passée en effet à l'action de sa fenêtre pour soutenir les manifestants. Ça va faire un vrai petit scandale dans la ville, mais finalement, ça rend service à Marie-Constance puisque ça lui assure un vrai succès.
Les mois passant, mon petit commerce commence à se parer de quelques notoriétés. Les choses ont dû se dire. Le bouche à oreille a dû fonctionner. Le fait est qu'on me demande assez souvent, même si je ne réponds pas toujours. C'est très bien ainsi. Je peux choisir. Je préfère d'ailleurs pour l'instant garder mes fidèles. Mais je ne peux rester insensible à un certain changement qualitatif qui se dessine dans les propositions que l'on m'adresse. Des collectivités, des maisons de retraite, des centres culturels, des hôpitaux même ont pris contact avec moi.
La lectrice, c'est donc un joli conte. Un joli conte qui nous montre que la lecture, en privé ou avec des partenaires, c'est un peu la clé de soi-même et la clé du monde. Et donc, si c'était vrai, la lectrice nous aura surpris, fait sourire et même fait rire. Alors, la semaine prochaine, une autre surprise peut-être.
A song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, roho yangu.